I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chère mamase, future mamase ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Andrea a 3 garçons et si sa première grossesse est arrivée par surprise, elle l'emmène aussi vers un tout nouveau chemin de vie. Elle a toujours voulu être maman, mais ce qu'elle ne savait pas, c'était à quel point la maternité allait changer sa vie personnelle et professionnelle, notamment suite à une rencontre après son accouchement. Cette rencontre, c'est une auxiliaire de puériculture qui va prendre le temps de discuter avec Andrea, de l'accompagner dans ce moment de grande vulnérabilité dans lequel se trouvent les femmes après avoir mis au monde leur bébé, ce moment hors du temps avant de rentrer à la maison. Pour Andrea, c'est l'évidence, elle veut elle aussi accompagner les jeunes mamans. Elle retourne sur les bancs de l'école, se forme à la puériculture pour devenir à son tour auxiliaire, elle chemine, découvre, expérimente, se professionnalise jusqu'à devenir consultante en lactation. Et alors que le système hospitalier s'effondre en France, Andrea développe sa mission à l'extérieur pour le plus grand bonheur de toutes ses nouvelles mères. Bonne écoute!
Hello Andrea!
Bonjour Shane!
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas!
Eh ben avec grand plaisir!
Alors toi, tu es la maman de 3 enfants, ils ont quel âge?
Alors, mon grand a bientôt 14, celui du milieu 10 et le petit dernier de 4 mois.
Tout mignon, tout fraîchement arrivé!
Tout fraîchement arrivé, que des garçons!
Ouais! Ta petite tribu de boys, trop c'est cool. Ça. Alors on va revenir avant que tu deviennes mère, toi plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité? Est-ce que tu t'es toujours dit plus tard je deviendrai maman aussi, ou c'était pas forcément un sujet qui t'intéressait?
Ah ben alors j'ai toujours été la petite maman de la famille.
Ouais.
Donc très tôt ça s'est vu. Je pense que mes parents ils se disaient même. Que j'allais être enceinte dès 18 ans,
ah ouais.
dès que possible. Ils avaient un petit peu cette crainte secrète au fond d'eux.
Ouais.
Enfin, en tout cas, c'est mon père qui me l'a dit un jour comme ça, qui m'a dit bah, « Franchement, on a presque cru que t'allais être maman entre 16 et 18. » Donc oui, non, je pense que ça s'est toujours senti.
Ouais.
Alors, on est une grande famille de 9, entre cousins-cousines, hein, plutôt et fratrie aussi, tu me diras, mais 9 cousins, cousines très proches.
Ouais.
Et puis, j'ajoute à ça mes frères et sœurs. J'ai toujours été très maternante avec tous les petits nouveaux qui arrivaient.
Ouais.
Donc ça s'est quand même vu assez rapidement. Donc, j'ai commencé par garder mes cousins, cousines.
Ok. Toi, t'étais l'aînée de ta fratrie ou...
De ma fratrie, oui.
Ouais.
De l'ensemble des cousins, cousines, non. J'étais la troisième.
Okay.
Mais voilà, troisième quand même, donc assez grande.
Mm.
Et en fait, j'ai toujours eu quand même cette aisance. C'est-à-dire que pour mon jeune âge, je pense que de la façon dont je portais un bébé ou de la façon dont j'arrivais à calmer un petit cousin ou l'interaction que je pouvais avoir avec, je pense qu'on pouvait déjà quand même sentir que que soit j'appréciais énormément ou soit j'étais très à l'aise.
Ouais. Mais ça venait d'où? C'est ta maman qui t'a... transmis ça, ou tu as vu des tentes, ou c'était inné?
Je pense pas que ça soit inné. Je pense que rien n'est inné. Je pense peut-être que ça vient d'une histoire de vie.
Mmh.
Pour la petite anecdote, ma mère, elle a eu énormément de mal à m'allaiter.
Ok.
Elle a eu énormément de mal tout court avec la maternité, le postpartum. Elle le dit pas à 100%, parce que ça reste... et lointain et peut-être un peu tabou parce que c'est une autre génération.
Ouais.
Mais on sent que ça a été difficile pour elle. Un premier bébé, un allaitement qui marchait pas, qui n'a pas fonctionné comme elle l'aurait voulu. Et moi, je suis assez persuadée, en tout cas, moi, je crois beaucoup à tout ce qu'on peut transmettre très jeune au nouveau-né et tout ça.
Ouais.
Donc, je sens que j'ai dû prendre, en fait, très vite, mais on parle de bébé-bébé, hein, une sorte de rôle de maternage, mais plus envers ma mère, du coup,
ouais.
Qui galérait, en fait. Moi, je dirais, en tout cas, si je parle de transparence psychique, de tout ça, de tout ce qu'on transmet dans intergénérationnel et tout ça, bah, je partirais plus sur ce terrain-là qu'à mon avis, ça vient un peu de là et que du coup, le bébé, il prend un petit peu cette mission de vie de s'occuper de sa maman qui galère.
Trop beau, j'adore. Et alors, à quel moment le sujet de la maternité est arrivé concrètement dans ta vie?
Et bien, finalement, c'était pas spécialement prévu. C'était pas spécialement prévu. En fait, au départ, ça a été presque un bébé surprise.
Ok.
Et la première réaction, d'ailleurs, ça n'a pas été forcément d'être hyper emballé. Ça a été plutôt de se dire, waouh, qu'est-ce qu'on fait?
T'avais quel âge?
On garde pas. Donc quand je suis tombée enceinte, j'avais 22 ans.
Ok.
Voilà, donc c'était plutôt on le garde pas, voilà. Et puis finalement, mon ex-conjoint, parce que c'est pas mon conjoint actuel, mais mon ex-conjoint, il était super emballé, lui, par contre.
Ouais.
Donc il a été tellement content que les énergies ont été là. Et puis après, ça a été plutôt un peu plutôt de la logistique, c'est-à-dire de se dire, on travaille tous les deux, on est ensemble, on a... Enfin, ça va. Enfin, finalement, c'était plutôt dans le sens inverse. Il n'y avait aucune raison de ne pas l'accueillir un peu.
Ouais.
Donc, finalement, c'était un peu mutuel. On s'est dit, allez, go.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse?
Eh bien, très bien. On va dire que les trois grossesses se sont très bien déroulées. Globalement, j'ai cette chance-là. Je n'ai pas du tout de mauvais souvenirs. Enfin, en général, je n'ai pas trop de mots. Donc j'ai quand même la grosse fatigue du premier trimestre, etc. Mais j'ai pas trop les vomissements, j'ai pas vraiment les grossesses difficiles.
Ouais.
Donc c'est plutôt des belles grossesses. Je dirais peut-être encore plus belles à 22 ans parce qu'on a un côté très insouciant.
Oui.
Où on est un peu déconnecté, quoi. Donc on stresse pas, on se dit que tout va rouler,
ouais.
On est un peu peace and love. Donc je dirais peut-être que c'était même la plus sympa.
Ouais, tu t'étais informée particulièrement de quelque chose.
Pas du tout.
Ouais, tu t'es freestyle. Pas du tout.
Ouais, exactement. Exactement, mais en freestyle total. J'ai à peine été dans les cours de préparation.
Ouais. T'avais pas fait de projet de naissance, j'imagine?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Puis en plus, c'était même pas autant en vogue qu'aujourd'hui, mais pas du tout. J'avais aucun projet de naissance, j'avais aucune idée de ce que pouvait représenter un accouchement. Non, vraiment, j'étais encore un peu... j'avais quand même un peu la tête ailleurs, on va dire.
Ouais. Et tu faisais quoi comme métier à ce moment-là, avant de devenir mère?
À ce moment-là, j'ai été conseillère clientèle chez Gaz de France.
Ok. Donc rien à voir avec la maternité. Rien à voir. T'avais pas voulu, toi qui étais... à fond dans tout ça depuis très jeune, tu t'étais pas dit je vais faire mes études dans ce sens?
J'ai voulu, mais en fait il y a eu des... J'ai voulu, mais je pense que ça s'est mal organisé.
Ouais.
Mais j'ai fait une porte ouverte dans une filière sanitaire et sociale. Et puis finalement, je me rappellerai toujours d'ailleurs d'une dame qui m'a dit mais... qu'est-ce que vous aimez, etc. Bon, moi, j'ai dit les enfants. Et elle m'a dit, mais sanitaire et social, c'est pas du tout les enfants. Attention, détrompez-vous.
Ah oui.
Donc, elle m'a dit un truc comme ça. Et puis, elle m'a dit, la première année, vous faites même un stage en maison de retraite. Et tout. Donc, en fait, c'était un peu... Bon, c'était... Je pense que j'ai pas eu les bonnes infos.
Ouais, c'était pas hyper valorisé.
Ouais, c'est ça. Donc, premièrement, il y a cette histoire de filière qui n'est pas valorisée. Et il y a aussi le projet, mon projet, qui finalement n'est pas vraiment non plus très clair.
Ouais.
Pour moi, à cet âge-là. Donc, vu que j'ai pas quelque chose de clair à mettre sur la table, eh ben, on peut pas forcément m'expliquer aussi en face quelque chose de très clair non plus. Donc c'est un peu dans ça qu'on s'est perdu. Parce que, par exemple, auxiliaire de puériculture, j'ai appris très tard qu'on pouvait le faire dès 18 ans, par exemple.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire que j'en avais même pas entendu parler, ni du métier, ni... bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses, vu que moi, j'ai un grand, là, qui est en troisième. Je sais qu'il y a le forum des métiers, il y a pas mal de choses qu'on n'avait peut-être pas. Mais oui, forcément, j'avais ça dans un coin de ma tête, mais je pense que comme c'était pas très... le projet n'était pas très abouti, ben, j'ai un peu fait, j'ai fait certaines recherches et j'ai eu l'impression que c'était pas, qu'il n'y avait rien de clair.
Ouais.
Donc, j'ai un peu suivi les copines. Dans un premier temps, on va dire, j'ai un peu suivi les copines. Voilà.
Ouais. Alors, comment s'est passé le jour J, la rencontre avec ton premier bébé?
Alors, moi, j'ai des grossesses superbes, mais j'ai pas forcément des accouchements très...
Ah ouais.
Glorieux. On peut pas tout avoir. Hein. donc oui, en fait, j'ai fait... alors, au 8e mois, donc, j'allais à la maternité un peu à pied, l'air de dire, c'est la fin de grossesse, on va marcher un peu.
Ouais.
Et en fait, ils m'ont gardée parce que j'avais la tension élevée.
Ah, ok.
Et ça n'est jamais redescendu. Donc, de cette petite promenade, juste pour aller faire le contrôle des 8 mois, finalement, j'ai été hospitalisée 4 jours. Bah, le temps qu'on voit, on stabilise avec un traitement, etc., ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup, comme j'étais déjà après à 37 plus 4 et qu'ils considèrent que ce n'est plus la prématurité, etc., ils ont préféré déclencher l'accouchement parce que les tensions étaient quand même très élevées.
Ouais.
Donc, on est parti sur un déclenchement qui n'a pas du tout fonctionné parce que pendant au moins 30 heures, il ne s'est rien passé.
Ah oui. Mais tu souffrais ou il ne se passait juste rien?
Au début, pendant au moins 24 heures, il ne se passait juste rien. Après, je pense qu'ils ont mis en place plein de petites choses pour accélérer les choses et que ça commençait à faire mal. Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas non plus... Comme il ne se passait rien et que le col ne s'ouvrait pas, ils ne pouvaient pas faire de péridurale.
Ouais.
Donc, de mémoire, ils m'ont donné un peu de morphine, mais du coup, des fois, c'est pire parce que moi, en plus, je ne la tolère pas, donc je me mettais à vomir. Enfin bon, ça a été un peu l'enfer, on va dire, pendant... Ouais. Oui, franchement, pendant au moins une... Enfin, du coup, ils ont pris une décision de finir sur une césarienne, mais tardivement.
D'accord.
Parce que vraiment, au final, le col ne s'est jamais ouvert.
Donc là, tu te reconnectes un petit peu plus à la réalité après ces mois de grossesse légers.
Je ne sais pas si je me reconnecte ou si je me prends une claque dans la tronche. Je dirais que reconnexion, c'est encore joli.
Ouais, je vous laisse douce, mais...
Je dirais que franchement, je tombe je pense que oui, on se rend pas compte, mais je pense que ça a été violent. Je pense que ça a été violent. Je suis une femme assez forte de base, mais je me souviens avoir eu besoin de ma maman beaucoup, beaucoup.
Ouais.
Beaucoup. Donc ça veut dire que quand même, c'était pas tout simple.
Oui. Et ça s'est bien passé, ta césarienne, l'après, la rencontre.
Au-delà de ça, oui, ça s'est très bien passé. Le bébé allait très bien. Moi, j'étais super contente parce que j'avais l'impression, en fait, bah, vu que j'ai toujours été très dans les poupées, donc ça a commencé par les poupées, puis les frères et sœurs, puis les cousins, les cousines. Et en fait, là, c'était le mien.
Ouais.
Donc, c'était hyper particulier. Ça, c'était hyper touchant de se dire, bah, là, j'ai le mien. Et alors que j'ai toujours adoré ça. Et donc là, vraiment, j'avais vraiment une sensation particulière à me dire... que c'était à moi, en fait.
Ouais.
Et que là, du coup, ben, toutes les décisions allaient être les miennes, les responsabilités allaient être les miennes, qu'à aucun moment, j'allais finalement le rendre à quelqu'un, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'était une belle sensation. C'était une très belle sensation que j'ai beaucoup appréciée. Et sinon, au-delà de ça, la prise en charge à l'hôpital, tout ça, c'était vraiment bien. La seule chose un petit peu difficile, c'était que c'était un peu les mêmes... Enfin, presque. Il y avait une épidémie, en fait. C'était la grippe H1N1.
Ah oui.
Donc les hôpitaux, alors c'était pas aussi gros que le Covid, mais on avait quand même les hôpitaux en quarantaine. Donc voilà, j'ai pas eu trop de visites, les gens avaient pas trop le droit de venir à l'hôpital. Ma mère a essayé de se faufiler en prétextant me ramener quelques vêtements. mais une fois qu'on avait mis que c'était le papa qui venait, enfin c'était genre une personne quoi.
Ouais.
Donc ça a été un petit peu, voilà, mais du coup... La prise en charge était superbe et j'ai rencontré durant ce séjour une auxiliaire adorable. Et vraiment son soutien et son accompagnement m'ont touchée, je pense, et je me suis dit, mais c'est exactement le travail que je veux faire.
Ah oui, c'est à ce moment-là.
Ouais, ouais, ça a été vraiment le point de départ et c'est vraiment cette personne-là. Hein.
Ok.
Plus particulièrement. Parce que je me rappelle qu'elle était de nuit et qu'en plus, pour toutes celles qui ont déjà accouché ou qui travaillent dans ce domaine, on sait que la nuit, quand même, on est plus sollicité ou on sollicite plus si on est la maman que la journée où finalement on a quelques visites ou on est encore connecté à autre chose. Mais la nuit, on est vraiment un peu seul avec le personnel, en fait.
Ouais.
Donc, pour le peu qu'on trouve, on tombe sur une auxiliaire qui est vraiment à l'écoute et qui passe un temps précieux dans la chambre, ou même avec qui on va peut-être même se détacher et parler d'autres choses. Pas forcément que du côté très protocole, médical et tout ça. Ça peut être vraiment... c'était vraiment agréable. Et, ouais. Et vraiment, grâce à elle, je me suis dit, waouh, c'est complètement ce que je veux faire.
D'accord. Et tu avais prévu d'allaiter ? Tu as allaité ce premier bébé ?
Eh bien, j'avais rien prévu, encore une fois. Oui. Mais vraiment, tout a été... là, pour le coup, tout a été instinctif. J'avoue que je ne me suis jamais posé la question, mais que c'était presque une évidence que j'allais le mettre au sein, en fait.
Ouais. Et ça s'est bien passé ?
Très bien. Avec du recul, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance. En fait, j'ai eu beaucoup de chance sur les allaitements parce que j'ai eu aucune problématique. Et quand quand je me remémore un peu ou que je reprends le petit carnet de santé de mon fils, je me dis quand même 37 plus 4, 2,6 kg. Je me dis, il aurait pu avoir vraiment beaucoup de difficultés.
Ouais,
en tout
carrément.
Cas, beaucoup plus. Écoute, rien. J'ai allaité, il a très bien tété. Il n'a pas eu de complément, on ne m'a pas parlé de complément, on ne m'a pas mis de pression sur le poids. En même temps, j'ai eu une césarienne. Alors, peut-être qu'il faut que je précise, mais je ne sais pas si ça a joué. Mais c'est vrai qu'après, finalement, oui, ça s'est fini un peu en anesthésie générale aussi, parce que finalement, la péridurale a été faite, mais tardivement. Et du coup, c'était un peu, comme je te dis, ce n'était pas l'accouchement idéal. Mais du coup, c'est peut-être pour ça que je suis restée un peu plus longtemps. Le fait que je sois restée un peu plus longtemps, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas eu de pression du poids.
Ah oui.
Voilà, en tout cas plein de petits facteurs qui ont fait qu'en tout cas ça s'est quand même bien déroulé, mais c'est vrai que pour cette petite crevette et son petit terme et tout ça, franchement, j'avoue qu'il n'y a eu aucune problématique.
Ouais, trop bien. Et alors le retour à la maison, ça y est, t'es maman, c'est ton bébé, comme tu disais, c'est le tien maintenant. Comment ça se passe? Tu trouves tout de suite tes marques, t'es tout de suite à l'aise?
Ouais.
Ouais.
Au niveau maternité, à proprement dit, je suis tout de suite à l'aise. Je ne me pose pas 36 000 questions, beaucoup de peau à peau, beaucoup de portage, sans me dire, encore une fois, après, avec la jeunesse, mais sans me dire, mais on m'a dit qu'il ne fallait pas trop le porter ou ceci. Enfin, j'avais rien, j'avais pas forcément de...
Ouais.
Comme j'avais rien lu, j'étais plutôt sur le... Là, pour le coup, j'étais plutôt sur la transmission familiale qu'autre chose.
Ouais.
J'étais pas du tout dans des bouquins externes. Des informations externes ou quoi que ce soit, j'étais plutôt dans « je vais faire ce que je connais, donc je vais faire ce que ma mère a fait, ce que ma grand-mère a fait. » Et puis, voilà, on est une famille quand même assez... moi, ma mère, elle est d'origine espagnole, donc ils sont quand même très chaleureux.
Ouais.
Donc voilà, donc, au niveau familial, j'avais quand même cette base-là, et en fait, c'était vraiment mon... En fait, je l'ai pris comme repère.
Ok.
Donc, effectivement, c'était assez fluide au niveau du maternage.
Et donc, tu avais cette petite graine qui s'était plantée au niveau de ce futur métier pour lequel cette auxiliaire puéricultrice t'avait donné envie. Comment elle germe alors cette idée ?
Alors déjà, j'atterris. Je pense que j'y ai pas repensé tout de suite. Hein. Je pense qu'au début, je suis vraiment focus maman.
Ouais.
Et puis après, vient un petit peu le moment où... j'ai pris le temps pour rester avec lui. Hein. J'ai pris 8 mois.
Ok.
Donc, c'est vrai qu'après, allez, peut-être autour des... Peut-être à partir de 6-7 mois, je commence à me dire, oh, j'en ai un peu marre d'être à la maison, je vais... Voilà, et puis, il y a peut-être la commission des crèches, donc à voir s'il aura une place en crèche, et puis j'aurais peut-être envie de reprendre le boulot, etc. Donc là, ça commence à revenir à la surface. En me disant, mais j'ai pas du tout envie de retourner là où j'étais, en fait.
Ouais.
Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais Et alors, ça ne s'est pas fait tout de suite, parce que finalement, il fallait plus être dans le pratique. C'est-à-dire qu'on venait d'avoir un enfant, il fallait payer les loyers.
Oui.
Ce n'était pas vraiment le moment. On était un peu fragile pour, on va dire, tout déstabiliser, à reprendre, par exemple, des études ou quoi que ce soit. Donc, j'avais ça dans un coin de la tête. Je me suis dit, l'urgence, c'est quand même de travailler et d'avoir de l'argent.
Ouais.
Et en plus, j'avais même pas pris de congé parental et je sais pas pourquoi. Tu vois, comme quoi ça remonte. Ça devait exister, hein, j'en sais rien. Mais en fait, moi, mon mari, enfin mon ex, il était assez aisé. Donc, en fait, on s'est pas posé la question, mais c'est vrai que j'ai pas pris de congé parental. Ah oui, parce que je crois que. Non. Et, en fait, c'est parce que je touchais le chômage.
D'accord.
C'était plus intéressant. Bref, en tout cas, après, voilà, j'ai voulu reprendre et je me suis remis plutôt dans un travail de confort par rapport à un piston. Mais pareil, rien à voir, hein, c'était dans une école. Alors, c'était un plutôt cursus post-bac. Donc, c'est pas une école maternelle, quoi. C'est des grands.
Ouais, ok. Mais ça commence à s'approcher quand même de...
On retourne un peu vers l'enfance.
Du contact, en tout cas, humain.
Oui, du contact humain, exactement, c'est vrai, c'est vrai. Donc, j'ai commencé d'abord par cette fameuse école. Et de là, j'ai commencé à monter mon petit dossier. Enfin, j'avais toujours dans un petit coin de ma tête, je vais vous faire un petit dossier formation continue.
Ouais.
Et voilà, donc le temps qu'on se restabilise, et puis un enfant, ça prend beaucoup de temps. Hein. Alors moi, j'apprécie beaucoup tout cet âge-là, jusqu'à 2 ans, j'adore. Ça ne veut pas dire qu'après, j'aime pas, mais je veux dire, je suis vraiment, jusqu'à 2 ans, je trouve que les acquisitions, elles sont d'une rapidité. Et en fait, il faut être focus à chaque fois que tu vas au parc, à chaque fois que tu parles, les premiers pas, les premières dents, les premiers mots, enfin, tout ça, c'est tellement intense que finalement, j'étais hyper concentrée dans tout ça. Et donc, j'avais un travail de confort. Donc, franchement, je ne cherchais pas forcément à tout bouger non plus.
Ouais.
Et finalement, l'arrivée du deuxième est arrivée plus rapidement que le projet.
D'accord.
Mais en fait, du coup, ça a été un peu aussi le tremplin. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai eu mon deuxième, de nouveau une très belle grossesse. Un meilleur accouchement, mais de nouveau une césarienne. Mais franchement, beaucoup mieux gérée. Pas programmée non plus, mais... voilà, on a quand même tenté le voie basse, ça a été déjà beaucoup moins long, le travail il s'est mis spontanément à 41 semaines aussi. J'imagine bien que pendant la grossesse, j'ai pensé à beaucoup plus de choses que quand j'en avais 22. Enfin,
ouais.
Et puis parce que c'est une deuxième expérience, donc franchement ça c'était différent. Et du coup, deuxième hospitalisation en maternité, et là c'est foutu, je sors d'ici, je fais ma formation.
T'avais pas eu la même nana, mais elle était aussi sympa.
Non, je l'ai demandé.
Ah oui.
je l'ai demandé et on m'a dit qu'elle était passée 2 jours, parce que je sais pas si tu te rappelles, elle était de nuit.
Ouais.
Elle était passée 2 jours et je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah mais je crois qu'elle est au 4e étage aujourd'hui », un truc comme ça. Puis finalement, je pense qu'on a essayé un peu de la croiser, mais ça s'est pas fait.
D'accord.
Parce qu'en plus, c'est un hôpital où elles sont en 12 heures, donc parfois, t'as 3-4 jours de repos d'affilée ou des choses comme ça. Donc bon. En tout cas, j'ai pas pu la recroiser, mais je l'ai demandé. Et du coup, bah, là, c'était vraiment acté.
Ouais.
Là, c'était, je sors de là, c'est le projet.
Ok.
C'est le projet pour l'avenir, c'est-à-dire que je fais mon congé mater et je reviens pas au travail, je sors du congé mater, tout se met en place pour que je fasse cette formation. Okay. Et c'est ce qui s'est passé, parce que je suis allée faire les concours d'auxiliaire, mon bébé avait 3 semaines.
Ah oui.
Parce que là, c'est plus en 2023, là, c'est plus sous concours, mais avant, c'était sous concours.
D'accord.
J'étais sur liste d'attente quand même au départ, parce que c'était une école, alors c'était l'IFSI, pour la petite anecdote, c'était l'IFSI de la maternité où j'avais accouché 2 fois en tout cas, et il y avait que 35 places pour 600 candidats à peu près.
Ah ouais.
Donc c'était assez énorme. Et je me suis rendu compte, une fois sur place, en parlant avec les nanas, elles étaient toutes en mode « Mais t'as fait qu'un seul concours ?» J'ai dit « Bah oui. » Et en fait, elles en avaient fait toutes 4-5.
Ah oui, tu peux en faire à donc différents moi, lieux, ouais, c'est
exactement,
ça.
Exactement.
Ouais.
Et moi aussi, pareil. Donc tu vois, j'étais vraiment encore trop insouciante. Genre, ça va être simple. Et en fait, j'arrive et je vois tout le monde qui a fait 3-4 concours. Et je fais « Ah ouais ?» Je dis « Mais moi non, j'ai fait que celui-là. » Et tout le monde me regardait en mode « Ah, bon, un peu risqué, mais, mais on verra. »
Et finalement, ça l'a fait ?
Ça l'a fait, avec une rentrée qui était prévue. Donc pour mon deuxième, il est né en août, le 16 août. J'ai passé les concours, je pense, en septembre, début septembre. Du coup, c'était pour une rentrée le 2 janvier.
Ok, ça te laissait quelques mois quand même.
Ouais, et c'était vraiment parfait parce que du coup, il y avait le congé mater et après, j'ai pu coller des congés jusqu'à la rentrée sans repasser par mon travail initial.
Oui.
sachant qu'en plus, c'était financé du coup par mon employeur. C'était ça qui était sympa. C'était financé par mon employeur, non seulement les 11 mois de salaire, plus la formation.
Ah, génial. Et donc là, t'es parti pendant un an à étudier.
C'est ça, 11 mois plus précisément, mais 11 mois et assez sympa parce que 6 mois de stage, parce que j'adore moi la pratique, je suis pas... Enfin, c'est toujours mieux que la théorie. Pour le coup, dans ces métiers-là, et pour le coup, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me dis vraiment, ce métier-là, il faut de la pratique. La théorie, c'est... Enfin, si on n'a que de la théorie, on n'est pas encore expérimenté, entre guillemets.
Ouais. Et tu l'as fait où, ce stage, la maternité où tu as accouché, ou pas du tout?
Pas du tout, il n'y avait pas de place. Alors, il y a 6 stages, hein, au moins. Donc, vraiment, c'est très enrichissant. J'ai fait 2 stages à Necker, un en salle de réveil post-bloc, un en cardiologie, très dur quand même, les enfants malades. J'en ai fait un dans un centre maternel. Dans 2 crèches, une crèche hospitalière, une crèche municipale. Donc, tu vois, c'est très vaste, en fait. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que tu vois vraiment un peu... C'est-à-dire que tout ce que tu as en tête avant, eh ben, au moins, tu pourras le tester. Moi, je pensais que j'aurais été capable de travailler de nuit, par exemple. J'ai fait un stage de nuit, j'ai trouvé ça horrible. Enfin, j'ai trouvé ça très difficile, donc je me suis rendu compte. Je ne savais pas encore où est-ce que j'allais travailler, mais j'ai fait un stage en cardio et j'ai vu que les enfants malades, c'était très difficile. Donc, c'est ça qui est bien, en fait, dans cette année-là, c'est que t'as l'occasion de voir tellement de choses et après de pouvoir mieux te positionner et mieux concrétiser ton projet.
Et toi, c'était quoi alors ton projet à la fin de cette formation ?
Ah bah, ça a été la maternité, finalement. Vraiment, ça a été la maternité. J'avais fait mon stage au Bleuet, d'ailleurs, à la maternité des Bleuets. Et ça s'est très bien passé. Bah, tous mes stages se sont super bien passés. Pour le coup, la partie théorie était plus difficile. J'avais 27 ans. Enfin, j'avais entre 26 et 27. C'était une reconversion professionnelle. Et en même temps, c'était une école où il y avait pas mal de jeunes. Parce que du coup, bah, là où je découvrais qu'on pouvait faire auxiliaire dès 18 ans.
Ah oui.
Et parfois, c'était très infantilisant. Au niveau des profs ou même de la directrice. Tu sais, parfois, c'était très... toi, t'avais déjà été dans le monde du travail...
T'avais 2 enfants.
T'as déjà 2 enfants. Et il y avait des plus âgés que moi. Hein. Il y avait des femmes de 40 ans. Hein. Il y avait même de la quarantaine, etc. Mais c'est vrai que ça peut être difficile. Le côté école, le côté un peu voilà, où les profs ils te reprennent, etc. Donc forcément, je me sentais forcément tout de suite beaucoup plus épanouie en stage. Donc mes stages se sont super bien passés. Et en sortie. Et alors, pendant un an, on te bassine qu'il n'y a pas de place à l'hôpital, qu'il vaut mieux postuler en crèche, etc. etc. Et vraiment, on te le met en tête. Hein. Moi, heureusement, je suis un peu têtue. Donc, quand je suis sortie de tout ça, donc on est diplômé. Donc, on commence le 2 janvier, on est diplômé aux alentours du 5 décembre.
D'accord.
Donc, moi, j'ai laissé passer les fêtes et tout. Et puis, dès le mois de janvier, j'ai envoyé, mais que dans les maternités.
Ouais. Bah, c'était ton goal, toi, de toute façon.
Oui, voilà, moi, c'était le goal, donc il n'y avait pas de raison que voilà. Puis on a bien compris que j'étais un peu comme ça, c'est soit ça, soit rien, parce que même pour l'école, j'ai fait qu'une école.
Déterminée.
C'est ça. Et bah écoute, ça a porté ses fruits parce que j'étais prise en maternité.
Très bien.
À peine un mois après, j'ai commencé le 2 février, voilà.
Ouais. Donc là, t'es restée combien de temps ? Donc l'idée, toi, c'était d'être auxiliaire ou tu visais encore autre chose après ?
Je voulais poursuivre sur sage-femme au départ. Et donc après, j'ai été prise donc, dans une grande maternité parisienne, hein, Port-Royal. Et pareil, bah, c'est très bien parce que du coup, on découvre encore plein de choses. Et finalement, l'idée de devenir sage-femme s'éloignait de plus en plus parce que finalement, le métier de sage-femme s'éloignait en fait de mon goal. Je pense que c'est la structure aussi qui fait ça, hein, l'établissement. Mais c'est-à-dire que c'est tellement une usine, Port-Royal, il y a tellement un nombre d'accouchements.
C'est là intense. Où j'ai accouché.
C'est vrai ?
Ouais. C'est vrai que c'est assez énorme.
C'est assez énorme. Donc en fait, si tu veux, bah, forcément, les rôles sont bien cloisonnés. Les sages-femmes, elles sont sous l'eau. Et elles délaissent beaucoup, parfois malgré elles, hein, mais elles vont délaisser la partie un peu allaitement, la partie bébé, justement, beaucoup. Ce qui est très bénéfique aux auxiliaires, du coup, parce qu'on se sent forcément plus valorisée et plus importante, puisqu'on a plus de choses à faire. Donc finalement, voilà, finalement, j'ai un peu déchanté sur le métier de sage-femme. Je me suis rendu compte que c'était moins ce que je visais, c'était trop médical et trop centré sur le postpartum à proprement dit. C'est vraiment autour de la maman, des traitements qu'elle va avoir. Et ça s'éloigne un petit peu du binôme mère-enfant que moi, j'appréciais plus.
Oui, ce que tu as vécu, toi, avec cette femme, cette auxiliaire, quand tu as les discussions, le lien, en fait, qui se crée avec la professionnelle.
C'est ça. Exactement. Donc, du coup, voilà, je suis restée... j'ai pas porté le projet plus que ça. J'ai aussi un peu découvert l'allaitement sur le terrain.
Ouais.
Parce que finalement, moi, j'avais que les deux miens comme expérience.
Ce qui est déjà pas mal, mais...
Ce qui est déjà pas mal, mais qui n'est pas une expérience professionnelle, en tout cas. Oui. Donc, j'ai un peu découvert l'allaitement. Je dirais que mes deux accouchements, de manière générale, et mes deux allaitements m'ont énormément servi sur le regard que j'allais porter sur ma profession. Parce qu'en fait, quand tu arrives... alors, quand tu es stagiaire, on te dit tout de suite, bah, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et en fait, si tu n'es pas très ancré toi-même, bah, tu vas forcément suivre le mouvement sans avoir forcément ta propre idée ou ta propre... où tu n'avais pas imaginé la chose.
Ouais.
Là, ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'idées reçues, en fait. Et comme j'étais souvent l'exception qui confirme la règle, eh ben, je trouvais ça un petit peu radical de la part de certaines collègues ou de certaines personnes que je croisais, de dire ça, c'est comme ça et pas autrement.
Ça pouvait être quoi, par exemple ?
Alors, il y en a plein. Hein. Par exemple, tu verras, cette chambre-là, cette maman-là, elle a eu une césarienne, donc tu verras, elle n'aura pas sa montée de lait tout de suite.
Mmh.
Et moi, j'avais eu 2 césariennes et 2 montées de lait, donc j'étais déjà là en mode, bon, d'accord. Enfin, je disais trop rien, mais dans ma tête, j'enregistrais tout d'un air, bon, il y a dû apprendre et dû à laisser. Mais en fait, ça m'a énormément aidée, parce que j'imagine que, tu vois, tu n'as pas d'expérience et tu te dis que c'est vrai, en fait.
Bah oui.
Tout simplement, et donc tu fonces dans la chambre, et en fait tu fonces dans la chambre avec une énergie négative, enfin, je dis pas, enfin, c'est un peu gros, une énergie négative, mais tu vois, tu rentres dans la chambre en pensant que cette maman-là, elle aura une retard de montée de lait, un retard de montée de lait, tout ça, et en fait, je sais pas, je suis sûre que ça influence sur toute ta prise en charge, ton attitude. C'est pas la même énergie. Donc il y a la formation d'un an, et après il y a tout ce qu'on va te transmettre quand t'arrives au boulot. Et du coup, ça, je trouve que mon expérience, pour le coup, m'a aidé à vraiment faire la part des choses sur tout ce qu'on allait me transmettre.
Et donc ça, tu le fais pendant combien de temps ? À quel moment tu te dis, ah bah tiens, l'allaitement, c'est vraiment le domaine qui me plaît le plus ?
Alors, je pense que pendant un an, je trouve mes marques dans tout ce qui est rythme, horaire, enfin tout ça. Charge de travail, tout ça. Et puis après, effectivement, je trouve que j'ai un petit... Pour le coup, je trouve que j'ai un petit... Je ne sais pas si je peux appeler ça un petit don, mais je trouve que j'ai une petite facilité avec l'allaitement. Je suis à l'aise. En tout cas, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise là où plein de collègues, finalement, se trouvent pas très à l'aise.
D'accord.
Donc, en fait, quand on se retrouve dans les postes de soins, c'était souvent, ah là là, je galère avec l'allaitement, je ne suis pas à l'aise, je ne sais jamais s'il faut toucher le sein de la maman, pas le toucher, je n'arrive pas à trouver mon positionnement, etc. Et là, je me rends compte que moi, quand je rentre dans une chambre, je le fais très instinctivement et je me dis, ah ouais, que je ne me pose pas 36 000 questions, je rentre dans la chambre et c'est comme si quand je rentre dans la chambre, je suis dans une bulle. Et je sais exactement quoi faire, quand et comment le faire, autour de l'allaitement en tout cas.
Ouais.
Autour du reste aussi, hein, parce qu'il y a le bain, les soins, mais ça c'est encore autre chose. Ça c'est un peu comme si on dictait un cours. Voilà, le cordon, il faut faire comme ça. L'allaitement, c'est plus spontané. Et effectivement, je me retrouve dans parmi les discours de mes collègues, je me dis que quand même, moi, quand je rentre dans une chambre, je me trouve plutôt à l'aise. Et c'est là que je commence à être de plus en plus à l'aise en fait.
Ouais.
Avec ce côté allaitement, et du coup j'apprécie énormément, en fait je suis à l'aise, je pense que ça se transmet, et j'ai de plus en plus de retours de maman qui vont me dire ah mais trop bien, ça marche, et puis à ce côté, à la maternité, il y a ce côté valorisation qui est très important, qui fait énormément de bien, où les parents ils sont hyper contents, hyper reconnaissants, donc ils t'offrent des chocolats, ils te disent merci pour tout. Mmh. Nous, on est tellement dans une routine quotidienne qu'on n'a même pas l'impression d'avoir fait quelque chose, et puis finalement, on se retrouve avec un énorme bouquet de fleurs, mais merci pour tout, vous m'avez sauvé la vie. Nous, on se dit, mais j'ai rien fait. J'ai rien fait de spécial. En fait, on ne se rend absolument pas compte de ce que vit le parent en face. Hein.
Ouais.
Quand nous, on rentre dans une chambre... On se dit qu'on fait ça toute la journée, à longueur de temps. Enfin, donc, on ne se rend absolument pas compte. Et en fait, c'est tous ces petits gestes-là qui nous font, qui m'ont fait, en tout cas moi, réaliser à quel point c'était important. Mm. Et puis, à quel point ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir les aider. Et comme j'avais cette aisance à ce niveau-là, et ben, finalement, je trouvais que ça matchait pas mal, en fait. Ça matchait assez bien. Et j'ai même eu la sensation que certaines collègues l'ont ressenti,
ouais.
Ça. À tel point de, par exemple, m'appeler pour que je les aide sur des mises au sein ou des choses comme ça.
Ok.
Donc, je dirais que ça s'est quand même fait un peu tout seul, hein, on va dire. C'était, tout ça, c'était pas calculé, c'était pas prémédité, mais ça s'est vraiment posé là, comme ça.
Ouais, t'as fait ton petit chemin au fur et à mesure de tes expériences. Et après, donc, tu deviens conseillère en lactation.
Bah après, très vite, je me trouve limitée. Ouais. Parce que l'hôpital s'empire. Les hospitalisations se raccourcissent, le personnel diminue. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait une... Imagine-toi que rien qu'en 5 ans et demi, ce qui n'est rien, à l'hôpital, j'ai déjà vu un changement immense. C'est-à-dire que toutes les aides-soignantes qui partaient en retraite n'ont pas été remplacées.
Ah oui.
Ou ont été remplacées par des auxiliaires, par une ou deux auxiliaires. Mais du coup, il fallait qu'on fasse tout. Il fallait qu'on fasse... les bébés, la maman, mais aussi les lits, tout ça. Donc ça, c'est un changement énorme. Il restait encore quelques ASH. À un moment donné, les ASH, c'est ceux qui servent les repas et qui font un peu... Bah, pareil, quand ils commençaient à partir, ils n'ont pas été remplacés. Au même titre, ils ont été remplacés par des auxiliaires pour que les auxiliaires fassent tout. Donc tu vois, rien qu'en 5 ans, il y a eu tout ce changement-là. Et ce qui fait qu'à la fin de tes 5 ans, moi, j'ai senti que je n'arrivais pas à prendre en charge... une maman, le bébé, le papa, enfin, j'arrivais pas à travailler de la même manière qu'il y a 5 ans, en tout cas.
Mmh.
Et du coup, on se retrouve un petit peu désemparés, on a plus de mamans qui pleurent, on a des sorties précoces, on a des mamans qui sont pas du tout prêtes à sortir au bout de 3 jours. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que je me trouve limitée. Alors, je propose des projets, quelques-uns, mais... auxiliaire, c'est pas non plus la chef d'équipe, hein. On va pas se mentir. C'est un peu quand même le sous-métier, faut pas se mentir. Donc c'était pas, voilà, moi je venais d'un autre cursus et tout, donc peut-être que j'avais une autre aura, mais en réalité, si t'es pas, même les sages-femmes déjà c'est un peu compliqué, donc en vrai, vraiment, tu vas proposer des choses, mais tu vas pas du tout être entendu.
Mmh.
Donc j'ai proposé, j'ai insisté. Bon, finalement, j'ai fait des formations allaitement au sein de la maternité. Donc ça, c'était génial. Donc j'ai commencé par là, par des formations allaitement en interne. Ensuite, j'ai voulu en refaire d'autres. Il y en a même une que j'ai fait deux fois parce que personne ne voulait y aller.
Ok.
T'imagines ?
Ouais.
C'est quand même ballot, hein, dans une maternité aussi grande, que personne ne veut y aller à la formation allaitement, quoi. Enfin, bon.
Oui, c'est dommage, effectivement.
Il y avait toute une vague qui l'avait déjà fait. Et il y en avait qui, que ça n'intéressait pas.
Ok.
Donc voilà. Donc j'ai dit, bah moi je veux bien la refaire. Sachant que je crois que c'était une autre intervenante, ou en tout cas ça allait être un peu différent, mais moi ça ne me dérangeait absolument pas de la refaire, donc je l'ai refaite. Et au bout d'un moment, bah, tu te sens trop limitée et tu te dis que tu ne peux pas rester à l'hôpital. Parce que tu ne peux peut-être pas les mamans comme tu aurais vraiment envie de les aider.
Ouais. Donc là tu crées, tu deviens libérale.
Alors, au départ, je suis encore à l'hôpital, je crée d'abord la page Instagram.
Ok.
Parce que je me sens coincée. Je pense que quand on fait ces métiers-là, de toute façon, on a un peu une âme de sauveuse.
Oui, oui, clairement.
Normalement, on sait ça. Donc, je suis à la limite de vouloir donner mon numéro de téléphone quand une maman, elle sort en larmes. Juste pour lui dire qu'en fait, dans 24-48 heures, tout ira bien. Mais genre que je ne peux pas la garder avec moi. Donc je suis presque à cette limite là et quand je sens que cette limite là elle arrive et que je suis presque à vouloir donner mon numéro, je me dis bon stop Andrea, en fait tu vas pas travailler 24h/24. Ou quand je suis à la quand j'arrive justement au moment de ma vie où j'ai presque envie de de faire des heures sup, en fait. C'est-à-dire que d'être en train d'aider une maman à 21h, j'ai fini, mais en fait, là, elle n'est pas bien. Donc, en fait, je reste presque une heure de plus dans la chambre.
Ah oui.
Parce qu'elle n'est pas bien et parce que je sais que je ne reviens pas le lendemain ou des choses comme ça. Donc, quand j'arrive à ce stade, je me dis, vas-y, là, il est temps que je crée quelque chose de productif. Et j'ai cette idée de page Instagram parce que je me dis qu'en fait, ça va être un relais. C'est-à-dire que je vais pouvoir transmettre des informations à distance sans que ça soit mon numéro perso, sans que ça empiète non plus sur ma vie privée. Et en même temps que un peu pour créer comme une banque de ressources où les mamans, elles pourront aller voir.
Mmh.
Donc ça part de là et ça va durer pendant 2 ans alors que je suis encore à l'hôpital.
Ok.
Où ça va être justement que des posts, mais vraiment le plus gros de la construction de la page.
Mmh. Et là, tu sens un déferlement de mamans qui débarquent.
Exactement.
Ouais.
Et c'est exactement ça. Je sens que... ouais, même des messages privés ou merci pour cette page, enfin des choses comme ça, où je mets des infos en plus très réelles parce qu'en même temps, je suis parallèle, tu sais, je suis en train d'être formée, donc je suis vraiment au cœur du truc.
Mm.
Donc les informations sont fiables. J'aimais bien le format Instagram parce que ça fait pas blog. Enfin, faut vraiment se mettre dans le contexte où faut prendre tout le concept de la maternité. Et faut aussi se dire qu'une maman à ce stade-là de sa maternité, elle a pas le temps de se lire un bouquin, elle a pas le temps de se lire. Elle a rien de temps d'autre que de voir un post Instagram en fait. Et encore. Ouais, et encore.
C'est clair.
Donc voilà, je suis vraiment partie sur une idée de. Allez, on va être précis, concis, efficace.
Mm.
Parce que c'est vraiment le besoin tout de suite, là, tout de suite maintenant, si je suis en pleine montée de lait ou si je suis dans une autre situation. Et c'est ce qui a marché, je pense, en fait. C'est là où ça a pris, parce que on a l'info, boum. Et en plus, je pouvais me permettre de dire qu'il peut y avoir des petits messages privés. Et du coup, moi, je peux continuer un petit peu des conseils ou en tout cas avoir ce côté-là où j'ai l'impression de garder un petit peu une aide pour la maman. Sans que ça soit ni mon numéro privé, encore une fois, ni ma vie privée, ni tout ça.
Ouais, et puis tu peux toucher plus de monde avec les réseaux sociaux, donc...
Ouais, et donc ouais, non, ça, franchement, ça a bien pris. Et au bout de 2 ans, donc finalement, je pars de l'hôpital et je commence un petit peu c'est dans le sens inverse, c'est que j'ai commencé à avoir des messages de maman qui m'ont dit « Mais tu voudrais pas venir à la maison ? Ou vous pourriez pas passer à la maison ?» etc. Et je me dis « Ah !» Il y a un réel besoin, en fait.
Ouais.
De là, je me dis, il y a vraiment un réel besoin. Et en fait, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est à force d'avoir su ce genre de message, je me suis dit, allez, ça peut être une bonne idée. En fait, en tout cas, je sens qu'il y a un besoin et que ça peut être vraiment cool à mettre en place. Sachant que à ce moment-là, je n'ai pas d'idée que ce métier existe. Pour moi, c'est les sages-femmes, par exemple.
Oui, tu ne penses pas que ça existe en dehors de l'hôpital ou de la maternité
Pour moi, c'est les sages-femmes libérales ou ton suivi ou des... ou la PMI qui passe à la maison.
Mmh. Et alors, comment tu construis, du coup, petit à petit, toi, dans l'idée, c'est de les accompagner après l'accouchement pour l'allaitement, ou tu as aussi une phase de préparation en amont à l'allaitement quand elles sont enceintes?
Au départ, c'était essentiellement quand même après l'accouchement.
Ok.
Mais là, aujourd'hui, effectivement, j'ai étendu ça à la grossesse parce que c'est vraiment encore plus bénéfique d'être préparé en amont.
Ouais.
Et encore une fois, je m'adapte complètement à la maman. Parce qu'il y en a que ça va stresser d'être trop préparé, il y en a qui ont besoin d'être très préparé. Donc après, on s'adapte vraiment au profil qu'on a en face de soi. Hein. Mais au départ, c'était vraiment plutôt post-accouchement et post-partum. Et oui, ça s'est fait assez naturellement. Du coup, j'ai commencé à avoir une maman, 2 mamans, 3 mamans. Puis finalement, j'ai vu que c'était assez sympa. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je crée un truc plus stable, plus... donc là je commence à me renseigner, je suis à la chambre des métiers par exemple, je regarde quel statut je pourrais avoir, donc là je crée le statut, etc. Enfin, puis après ça, là, tout ça, ça a été assez fluide et puis après de fil en aiguille alors j'ai eu un petit moment de... parce que quand j'ai quitté l'hôpital j'ai pris une dispo mais j'ai pas pu rester sans travailler, donc je suis passée un petit peu en crèche.
D'accord.
Mais vraiment rapidement, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, ça faisait 1 an que je cherchais un poste en PMI. Comme ça, ça poursuivait le côté médical quand même. Alors que la crèche, je savais que ça allait m'éloigner de l'allaitement.
Ouais.
Donc, j'ai fait un petit passage en crèche parce que finalement, je ne trouvais pas du tout de place en PMI. Mais ça a duré 3-4 mois et après, j'ai finalement trouvé un poste en PMI. Donc, j'étais ravie. Et là, pareil, bah, ça t'ouvre un autre regard sur l'allaitement, parce que finalement, tu ne connais quoi de l'allaitement que les 3 premiers jours à chaque fois. Donc, tu ne connais rien des pathologies de l'allaitement, des complications, de ce qui pourrait se passer après. Donc, la PMI, ça a été encore hyper enrichissant, surtout les allaitements beaucoup plus longs, en fait. Donc là, ça vient peaufiner ton expérience. Ça vient vraiment peaufiner une expérience autour de l'allaitement. Et là, je me dis, oui, là, je veux être... Là, je vois que, bah, comme je suis un peu le nez dedans, là, je commence à connaître, à savoir qu'on peut être conseillère en lactation, qu'on peut même passer une certification, qu'on peut se former encore plus. Je suis un peu ouverte à ce qui se passe dans les autres pays, parce que la France n'est pas non plus les plus en avance, donc je suis un peu ouverte. Et du coup, je refais... donc là, je décide de faire la longue formation qui prépare à la certification IBCLC.
D'accord.
Donc, pas financée par la PMI, malheureusement, donc je me la finance moi-même et je fais la grosse formation d'un an, essentiellement que sur la lactation humaine, quoi. Et en parallèle, j'ancre encore plus mon entreprise en créant un site internet pour ouvrir un peu plus au-delà d'Instagram. Voilà, passer encore à une étape supérieure d'évolution. Et puis, ça marche très, très bien.
Ouais.
Ça marche très, très bien. Et puis, j'ai accompagné une maman qui avait écrit un livre. Et elle me dit, la maison d'édition avec laquelle je travaille voudrait écrire un livre sur l'allaitement. J'ai tout de suite pensé à toi. Est-ce que je peux leur donner ton contact et tout ça? Donc voilà, pour aboutir finalement à même l'écriture d'un livre. Donc autant te dire que quand j'ai commencé l'école d'auxiliaire, j'étais loin d'imaginer toute cette aventure.
C'est trop chouette. Et comment ça se passe concrètement? À quel moment faut te contacter? Je sais pas, je suis enceinte ou je viens d'accoucher, je galère avec mon allaitement, je te contacte tout de suite ou comment tu fonctionnes?
Mais alors, ça peut être super d'avoir une consultation de préparation.
Ouais.
Moi, je trouve, parce que c'est plutôt pour se préparer à ce qu'on va vivre les 3 jours d'hospitalisation. Et en fait, moi, je le fais d'une manière très... c'est pas un cours, c'est juste poser les bases de se dire, voilà, surtout quand c'est un premier, mais au final, même quand c'est un deuxième, c'est même parfois mieux parce que c'est pour ne pas revivre ce qu'on a vécu pour le premier. Donc, on sait même plus dans quoi on met les pieds. Mais l'idée, c'est juste de se dire, on parle pas forcément que de l'allaitement pur et dur. En fait, je leur parle de ce qu'elles vont vivre pendant toute l'hospitalisation, et ça, je trouve que c'est génial.
Ouais.
Parce que personne ne va leur en parler de cette manière-là. Personne va avoir... enfin, il va y en avoir d'autres, mais je veux dire, très rares sont les copines qui vont avoir, moi, mon côté, où à la fois je suis mère, à la fois je suis professionnelle, donc j'ai vraiment tous les aspects de ce qui va se jouer. Et j'ai travaillé à l'hôpital, donc je suis aussi la professionnelle. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, vraiment... je les prépare à vraiment, presque étape par étape, ce qu'elles vont vivre à l'hôpital. Et j'ai encore vraiment beaucoup de... J'ai encore un pied un petit peu dans l'hôpital, plus aujourd'hui, mais encore très récemment, j'ai encore un pied dans l'hôpital pour savoir exactement comment ça fonctionne.
Ouais.
Donc savoir exactement quoi leur dire. Et ça, je pense que c'est hyper bénéfique de pouvoir savoir, en fait, au moins où on va. Et ensuite, soit ça suffit, parce qu'en général, si on est très bien préparé et que tout se roule à peu près bien, ça devrait le faire. Mais il n'y a vraiment pas de raison, parce que le gros secret de l'allaitement, il est quand même dans les 10, 12, 24 premières heures, on va dire. Donc à partir du moment où ça, tu l'as géré, derrière, ça sera des ajustements.
Okay.
Et des ajustements qui sont quand même moins difficiles. C'est-à-dire que même une personne un peu moins formée, eh ben, elle peut faire un ajustement. Donc tu n'es pas obligé de contacter une experte après s'il y a des petits ajustements à faire.
Par exemple, donc, si j'ai des crevasses ou des choses comme ça qui débarquent.
Exactement.
Là, je contacte qui?
Bah, c'est-à-dire que tu peux aller dans un rendez-vous avec ta sage-femme pour complètement autre chose, et puis tu lui dis, et puis finalement, elle s'y connaît un peu, même si elle n'est pas conseillère en lactation, je veux dire, elle va gérer.
Okay.
Elle va dire, on va revoir un peu la position, des petites choses comme ça. Donc, si déjà tu es préparé et que tout s'est bien amorcé, eh ben, je trouve que ça peut être pas mal, parce que les petits ajustements derrière, eh ben, il y aura plus de monde qui pourront le faire. Donc, tu auras plus de proximité. Au lieu d'attendre justement un rendez-vous avec quelqu'un qui n'a pas de place ou des choses comme ça, eh ben, tous les petits ajustements pourront être faits par tout le monde. Même je te dis n'importe quoi, même une kiné. Tu vois, une kiné, tu vas pour la rééducation du périnée, tu vas chez ta kiné en pensant qu'elle ne connaît rien à l'allaitement. Tu vas pour ton périnée et finalement, si elle a été maman, où elle est juste un peu en lien avec des collègues, et de temps en temps, elle parle de ça, et ben ça se trouve, elle pourra ajuster quelque chose.
Ouais, d'accord. Tu vois, faut pas hésiter à demander aux personnes qu'on rencontre, aux professionnels.
Moi, je pense qu'il faut pas hésiter à en parler aux professionnels, parce que finalement, des fois, on se rend compte que voilà, les ajustements peuvent être faits par beaucoup de monde. Donc, si tu as bien amorcé et que tu t'es préparé en amont, je trouve que déjà derrière, il y a plus de souplesse. Et par contre, parfois, il faut plus qu'un ajustement. C'est-à-dire que parfois, s'il y a vraiment une problématique liée soit à la morphologie de la maman, soit à la morphologie du bébé au niveau de sa bouche, de sa succion et tout ça, effectivement, parfois, bah, soit je revois la maman. Si on a, même si on a déjà fait une préparation, bah, parfois, il faut quand même que je la revoie pour une problématique un tout petit peu plus compliquée. Et en équipe avec souvent ostéo la plupart du temps pour voir un petit peu autour de la succion du bébé, ou si c'est une question de posture, de morphologie, tout ça, bah, dans ces cas-là, juste moi, mais pour avoir un ajustement quand même un petit peu plus poussé.
Mmh. Ok. Est-ce que tu as une anecdote d'un allaitement avec une femme, une histoire qui t'a marqué ?
Elles m'ont toutes marqué, elles sont toutes adorables. Je dirais qu'en fait, moi, je prends en compte... Enfin, ce qui m'a aidé, c'est pas vraiment une anecdote, mais... Après, j'aurai une autre petite anecdote, mais... Ce qui m'a aidé beaucoup, c'est... c'est que je trouve qu'il y a deux écoles. Dans la mission que je me suis donnée, en tout cas, d'aider les mamans et les bébés, dans toutes les femmes qui prennent ce genre de mission et qui vont aider dans la maternité, il y a celles qui sont un peu du côté du bébé, c'est-à-dire elles veulent sauver le bébé... Et il y a celles qui veulent sauver la maman.
Ouais.
Nous, moi, pour moi, on se rappelle bien que moi, j'ai voulu sauver ma maman.
Oui.
Donc, je suis plus du côté des mamans. Et je trouve que ça marche pas trop mal, en fait. Ouais. Parce que finalement, le pilier du binôme, ça reste quand même la maman.
Ouais.
Et donc, je trouve, mais ça, c'est mon avis très personnel, hein, on a tout à fait le droit de pas être d'accord, je trouve qu'à partir du moment où on prend... en charge la maman à 100% et qu'on l'écoute à 100% dans ce qu'elle veut à 100%, ça ne peut que marcher. Même si son souhait n'est pas forcément le même que ce que nous, on aurait envisagé. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout pro-allaitement. C'est-à-dire que même si je sais que l'allaitement, c'est bénéfique et que moi, peut-être qu'au fond de moi, j'aimerais bien qu'elle allaite 6 mois, si elle n'est pas capable, eh ben, je n'ai pas à lui imposer finalement.
Ouais.
Et en fait, je trouve que c'est le retour que j'ai des mamans, je pense que c'est celui-là. Quand elles me font un retour, je sens que c'est ça. C'est qu'elles se sentent toujours plus entendues, ou en tout cas le projet a été respecté.
Mmh.
Et du coup, elles, finalement, comme elles le vivent bien, et ben finalement, c'est toute la maternité qui le vit bien. Et finalement, le bébé va forcément bien, en fait. Si sa maman va bien, il va forcément bien. Je trouve que sur le... Je dis pas que l'autre école est pas bonne, hein, mais je trouve qu'effectivement, quand on est plus sur le bébé, c'est bien aussi. Mais on a tendance peut-être un peu trop à se focus sur le bébé. Du coup, un peu oublier la maman, ce qu'elle vit.
Ouais, qui est la source, en plus.
Qui est la source. Et parfois, bah, je trouve que ça coince un peu, parce que finalement, si on n'écoute pas la source, eh ben, dans le long terme, c'est plus compliqué quand même.
Ouais.
Donc je dirais que ça, c'est un peu mon petit avis personnel. Et je trouve que c'est ce qui marque et qui marque les mamans.
Et alors, dans ton livre, Mon petit cahier d'allaitement, on retrouve quoi ? C'est plein de conseils
Alors, c'est ça. C'est plein de conseils. Alors, c'est les conseils vraiment pratiques à l'allaitement. Ça, ils y sont.
Mm-hmm.
Mais il y a ce côté cocooning de la maman. Je pense que c'est ce qui ressort beaucoup dans le livre. C'est qu'il y a tous les conseils pratiques. Et à côté, il y a tout le coaching autour de « tu es une maman super, tu vas y arriver, c'est toi qui décides ». Donc, ce côté un peu soutien à la maman, j'ai vraiment voulu le mettre en avant dans le livre. Et je pense que j'ai eu déjà quelques retours et je pense qu'il se ressent.
Ouais.
Et pour certaines mamans, bah, du coup, ça leur fait du bien. Donc, c'est ce côté-là. Et puis, assez le côté aussi un petit peu petit cahier, c'est pour reprendre un peu le principe d'Instagram. Mm. Que ça soit juste hyper facile à lire, très illustré, dans un moment de vulnérabilité où j'ai pas le temps de me boire une encyclopédie sur l'allaitement, où en plus, je ne comprendrais rien.
Ouais, c'est clair.
Donc, c'est un peu les atouts du livre.
Trop chouette. Et alors là, tu as eu ton petit dernier, donc il y a quelques mois. Est-ce que tout ce parcours à la maternité, en crèche, enfin tout ce que tu as fait, là, tout ce que tu viens de nous raconter, et l'allaitement, ça a changé quelque chose, toi? Parce que c'est 10 ans après, finalement, que ce petit chou, il débarque.
Ouais, je pense. Alors, mon côté insouciant est parti, hein, clairement.
Ouais.
faut dire ce qui est. Maintenant, j'ai 36 ans.
Je suis une daronne. J'ai de la bouteille en hôpital.
La jeunesse, la belle jeunesse s'est envolée. Je me prends 10 fois plus la tête, malheureusement. C'est vrai ? Ouais, je pense que je me prends... En tout cas, au niveau de l'allaitement, là, tout de suite, je pense que je me prends plus la tête. Mais ça reste quand même fluide.
Ouais.
Mais j'ai senti que, tu vois, ce que je te disais de mon premier, là, où... Juste, je savais même pas comment il fallait se prendre la tête. Hein. J'avais même pas de questions à me poser, donc...
Oui.
C'était juste fluide. C'est vrai que là, parfois, je suis là en train de chercher des trucs. Je me dis... Ah, mais pourquoi là, j'essaye de comprendre le rythme, de me dire là, il a tété combien de fois et tout. Et finalement, je trouve que des fois, il faut un peu se redétacher de tout ça parce que finalement, ça, c'est un casse-tête. Et c'est ça qui rend le truc un peu compliqué, en fait, et moins fluide.
Ouais.
Donc, mais j'arrive quand même à me dire, allez, reconnecte-toi à ton feeling, ça va rouler. Et essaye de te détacher du côté, tu vas tout noter sur une feuille pour voir à quelle heure il tète et comment tu pourrais décaler le rythme et comment ceci et comment cela. Voilà, mais oui, et puis après c'est différent parce que c'est pas le premier, donc on est plus occupé. Mais globalement, ça se passe quand même super bien.
Il te donne cette dernière carte que t'avais pas encore vécue, où c'est pas si simple en fait, comme ça t'auras tout le panel pour toutes les mamans.
Exactement, c'est ça. C'est comme ça, j'ai un peu toutes les expériences, savoir comment on s'ajuste dans tout ça. Qu'est-ce qu'on vit, et puis en même temps, non, franchement, il est adorable. Puis c'est un petit troisième, il est chouchouté, il est accueilli par tout le monde, donc c'est encore une autre expérience. Mais pour la petite anecdote que je voulais te dire, c'est que j'ai quand même retrouvé l'auxiliaire.
Ah, trop bien.
J'ai quand même pu retrouver cette fameuse auxiliaire qui m'a fait tout démarrer.
Mais oui, tu lui as raconté tout ça.
Ouais. Avec beaucoup d'émotions, parce qu'on était en train de pleurer toutes les deux.
Ah, génial.
Mais ouais, parce que finalement, donc quand je suis repassée un peu à la crèche, tu sais, comme je t'ai dit, après quand j'ai commencé à la PMI, j'ai fait des vacations. Et forcément, j'ai fait des vacations en cherchant l'hôpital où j'avais fait non seulement l'IFSI, et puis là où j'ai accouché. De toute façon, c'est celui qui est le plus près de chez moi. Donc,
ouais.
Et puis franchement, c'est émotionnellement parlant, c'est un hôpital que j'aime beaucoup. C'est Saint-Joseph, dans le 14e. Et c'est la maternité Notre-Dame de Bon Secours. Et donc, j'ai fait des vacations. Et à ma première vacation, j'ai demandé après elle et elle était là.
Excellent.
Et elle se rappelait. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Elle se rappelait parce que, comme je l'ai dit au tout début, tu sais, quand je te disais qu'on a même parlé d'autre chose, c'est parce qu'en fait, elle avait tout de suite tilté sur le prénom de mon fils en disant que c'était le prénom de son grand-père.
Ah, d'accord. Ah oui.
Et on était partis sur ce sujet-là. Donc, il s'appelle Tidiane. Comme ça, je le dis, parce que sinon, ça fait un peu suspense.
Le mystère, comment
ça. Ouais, le mystère.
Oui, c'est pas commun, en plus. Comme
voilà, il s'appelle Tidiane, et donc c'était le prénom de son grand-père. Et donc, du coup, c'est tout de suite ce qu'elle m'avait dit quand elle était rentrée dans la chambre. Et donc, on avait eu des conversations qui avaient un peu débordé sur autre chose que le postpartum, le cordon, le bain, etc. Et ben donc, du coup, elle s'en rappelait. Elle s'en rappelait, et pourtant ça faisait, parce que donc du coup c'était, on va dire, il va avoir 14 ans, bon, ça faisait 12 ans. Ça faisait 12 ans qu'on ne s'était pas vus.
Incroyable. Ça a dû être un moment fort en émotion.
Ouais, c'était trop cool. Ouais. Franchement, c'était un superbe moment.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Alors moi, ça m'a beaucoup apaisée. Ça m'a adoucie, ça m'a apaisée. Je dirais que j'étais une adolescente assez incomprise à un moment donné. J'ai eu une adolescence un peu, tu sais, un peu... Les adolescences un peu colériques, là. Ouais. Colère refoulée. tu sais pas pourquoi. T'en veux à la terre entière, surtout à tes parents. Donc, par rapport à cette phase d'adolescence très en colère, eh ben, j'ai trouvé que c'était plutôt l'apaisement. C'était vraiment... Ça m'a redonné vraiment de l'apaisement, de la confiance en moi, je pense. Du coup, de l'apaisement, de la douceur. Ça m'a un peu recentrée, je pense. Pour le coup, ça a été très bénéfique. Mais là, ouais, particulièrement, par exemple, sur cet allaitement-là, je me trouve très, très, très apaisée. Il y a vraiment ce côté sérénité, apaisement. C'est vraiment ce que ça m'a apporté de plus important, je trouve, pour moi, ou en tout cas de plus... Ouais, de plus important.
Ouais. On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ouais.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Ouh, la maman parisienne, elle a une grosse charge mentale. Elle a une grosse charge mentale, elle se met la pression, que ce soit le premier ou le dernier. En fait, tout est speed à Paris. Et du coup, on a tendance à être un peu comme ça, c'est un peu notre naturel. On veut que tout, tout de suite, et donc la maman parisienne, elle peut avoir des difficultés sur justement la patience de cette mise en route de l'allaitement, pas si idéale au début, ou qui traîne un peu. C'est ce côté, c'est pas assez efficace, pas assez rapide. Donc voilà, donc il faut vraiment qu'elle ait ce lâcher prise, qu'elle se prépare bien, qu'elle s'entoure des bonnes personnes, mais aussi qu'elle arrive à mettre une pause, un petit peu une pause dans sa vie pour se focus un peu sur ça, savoir que ça c'est vraiment un temps calme. Un temps calme où elle va se reconnecter à elle et à son bébé. Essentiellement, et à rien d'autre, ni le ménage, ni la nounou à gérer, parce qu'à Paris, voilà, c'est ça, on va tout de suite, avant même d'avoir accouché, il faut s'inscrire à la crèche, il faut trouver une assistante maternelle, il faut faire tellement de choses que oui, elles ont beaucoup de mal à se connecter dès le départ. Il y a trop de démarches presque. Mais juste se dire que c'est un moment précieux qui va passer très vite et qu'il faut le vivre. Donc, pas hésiter à s'accompagner. Après, l'atout de Paris, c'est aussi d'avoir beaucoup plus de professionnels, beaucoup plus de structures. Donc, elles peuvent vraiment en profiter beaucoup plus d'endroits où il y aura des ateliers, des échanges avec d'autres mamans, des massages. Voilà. Il y a aussi ce côté-là qui est bénéfique à Paris. Donc, en profiter à fond.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris?
Bon, alors, maintenant qu'ils sont grands, c'est toujours le trampoline Fun Park. Mais franchement, c'est pas le plus top. Disons que c'est adapté à leur âge. Mais non, pour une maman un peu plus, dont les enfants sont un peu plus jeunes, en bas âge, moi j'adorais le jardin d'acclimatation. J'adorais la barque au bois de Boulogne. Du coup, ouais, là, je suis plus nature. En fait, je suis plus en extérieur, c'est vrai.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille ?
Là, tout de suite, je me détache de tout, justement, parce que je veux... Dans mon projet, c'est mon dernier.
D'accord.
Faut jamais dire jamais, donc on sait jamais, hein, mais normalement, dans mon projet, c'est vraiment mon dernier. Donc, j'ai vraiment envie de me concentrer et d'en profiter à fond, pour l'instant. Donc, je suis pas du tout sur une optique de reprendre, pour l'instant, trop rapidement un rythme de travail trop intense. Donc, ça, c'est le projet, en tout cas, pour la maternité. Après, dans le futur, ça va être vraiment de continuer maman qui allaite et de continuer vraiment des projets d'aider les mamans. J'aurai des projets un peu plus de groupe. C'est encore un peu difficile en France. Je trouve que les mamans sont un peu frileuses. Souvent, je leur propose d'ailleurs pour la préparation à allaitement, si elles veulent être toutes seules ou en individuel ou à plusieurs, elles ont quand même tendance à me dire en individuel, alors que moi, j'aimerais bien les regrouper. Donc voilà, l'idéal après, dans un futur un peu plus lointain, ça serait de créer un lieu un petit peu comme ça où on peut avoir des échanges, où je les invite à se rencontrer en fait. Mais un truc très cocooning, tu sais, où t'es assis par terre, il y a la place pour tout le tâche, pour tous les bébés, on peut allaiter, il n'y a pas de pudeur, voilà, un endroit vraiment sympa où vraiment il faudrait qu'on pousse un peu les échanges là où dans d'autres pays c'est vraiment beaucoup plus déjà bien mis en place.
Ouais.
Et voilà, et il va y avoir de plus en plus, je pense, de maisons d'accompagnement. Alors, j'ai pas le projet d'en ouvrir une parce que ça serait un peu trop ambitieux là tout de suite, mais si je pouvais ouvrir une maison d'accompagnement ou une maison un peu comme ça de cocooning avec plusieurs professionnels. Il y en a une que j'adore, à Noisy-le-Grand, qui s'appelle la MAB. Donc c'est la maison d'accompagnement et de bien-être. Et c'est un peu ce projet-là. C'est-à-dire qu'on arrive, par exemple, c'est un espace sans chaussures, alors que c'est un cabinet médical. Hein.
D'accord.
Mais tu sais, c'est une petite maison avec un espace sans chaussures. Donc déjà, tout le monde enlève les chaussures. Il y a dans la salle d'attente, du coup, pour être sur un tapis très cocon, un canapé. Et en fait, c'est le pédiatre, la sage-femme, il y a une ostéo, il y a une micro-kiné. Chacun a loué ses petits locaux. Et en haut, il y a une grande salle pour faire plein de choses. Donc, en fait, les professionnels, elles vont proposer yoga prénatal, massage bébé, s'il y a une conseillère, il y a une conseillère en lactation d'ailleurs là-bas, elle pourrait proposer des ateliers allaitement, je pense qu'elle le fait, une ostéopathe, enfin voilà. Donc c'est vraiment ce type de lieu qui est super sympa et c'est, pour moi c'est le futur pour l'accompagnement de... Vu que l'hospitalisation elle est en train de disparaître en fait, pour moi ça va vraiment être des lieux essentiels.
Et tes projets en famille ?
Projet en famille, ça va être des vacances. J'adore repartir à l'étranger en fait. Projet en famille, ça va être construire une maison au Sénégal. Et puis continuer d'accompagner mes enfants dans tous leurs projets, parce que j'ai des grands, pour l'instant, j'ai des grands sportifs. Pour le troisième, je ne sais pas encore, mais franchement, j'ai aucun doute qu'il ne suivra à la trace de ses frères. Donc voilà, donc j'ai un grand basketteur, un grand footballeur. Ça prend du temps, parce qu'il y a des entraînements, des matchs. Donc, bah, continuer à les accompagner partout, à être à fond dans leurs projets, dans leurs matchs. Et voilà, c'est déjà pas mal.
Merci beaucoup, Andrea.
Merci à toi.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.